Le dernier livre s'appelle donc « Fleurs et légumes du potager ». Donc c'est un livre qui présente à la fois donc l'histoire des légumes, mais aussi une présentation des fleurs, des légumes, parce que souvent on méconnaît les fleurs, on mange les poireaux, on mange les salades, on mange les choux avant qu'ils ne fleurissent, et puis les gens ne connaissent pas donc les fleurs, donc on a trouvé que c'était aussi intéressant de montrer donc les fleurs, tout en expliquant aussi l'histoire de ces légumes.
Donc alors ce livre, c'est la suite d'une série que vous avez commencé il y a quelque temps déjà. Alors c'est quoi cette série de livres ?
Ah oui, c'est une série de livres donc parus chez Lucullus. On avait commencé en travaillant avec Lucullus avec un livre qui s'appelle « Tomber dans les pommes », hein, travaillé avec Jean-Pierre Rouleau d'Arbor et Pommes. Et puis on a continué avec une présentation des fleurs sauvages au cours du printemps à l'été, ensuite des fleurs sauvages de l'été à l'automne, et puis on a continué avec les fleurs mellifères, les fleurs du littoral, et puis donc le cinquième volume qui porte sur les fleurs des potagers.
Alors du coup, d'où vous vient cette passion pour les fleurs et les légumes ?
Oh, moi j'aime bien marcher, donc en marchant on observe les fleurs. Et puis bon, le jardin c'est une passion tout jeune, depuis longtemps je faisais du jardin, maintenant que je suis en retraite j'ai un peu plus de temps de pratiquer ce plaisir. Et puis en même temps, le livre aussi, c'est la collaboration avec Jean-Yves Kiroas, qui est un agriculteur en retraite de Plébin, qui a la passion de la botanique, qui a la passion de la photographie. Et entre deux vieux, on s'estime, on travaille ensemble, on se promène, on marche, on fait des photos, on revient voir les légumes, les fleurs, parce que ça suppose de les voir plusieurs fois pour trouver le bon angle, le bel ensoleillement, la fleur dans son meilleur éclat.
Alors du coup, là, dans votre ouvrage, vous parlez donc de fleurs et de légumes méconnus ou de choses aussi qu'on retrouve assez couramment dans les potagers ?
Oui, on voit les deux, aussi bien donc, les légumes classiques, donc tout aussi intéressant de parler de l'histoire du poireau, du navet, du radis ou de l'artichaut, et puis de mettre aussi en valeur quelques légumes qui avaient du succès auparavant, qui sont souvent passés par une phase de déclin qui renaissent aujourd'hui, comme le panais, comme le topinambour, où il y a des tas de choses à découvrir, à expérimenter, de nouvelles saveurs à goûter, à cuisiner. Donc tout ça fait que dans un jardin, on peut trouver de multiples légumes. Il y a beaucoup de légumes qui sont relativement peu connus. Le crône du Japon est relativement peu connu. Il a été introduit donc simplement dans les années 1860 hein, par quelques jardiniers de Paris. Parce que crône du Japon, crône étant une ville de la région parisienne où il a été pour la première fois donc planté. Donc ça a passé par des phases où il a connu du succès, par des phases où il a connu moins de succès. Bon, aujourd'hui, il y a simplement quelques jardiniers qui le connaissent. Alors il y a des cas encore plus particuliers, c'est notamment le cas du conopode dénudé. Je pense qu'il y a simplement quelques rares jardiniers qui peuvent le cultiver, parce qu'on le trouve surtout dans la nature. Hein. Maintenant, il faut rechercher donc, ce qu'on appelle les noisettes de terre ou les châtaignes de terre qui sont dans le sol. On le trouve plus facilement dans la nature, mais bon, certains essayent de le mettre donc, dans les jardins. Je pense qu'ils sont assez rares, mais ça peut se trouver. Moi, je préfère aller dans mes coins favoris, au bord de la Doucine, à l'Opérec, pour retrouver donc, le conopode dénudé, et puis pour manger quelques châtaignes de terre ou quelques noisettes de terre. Donc ça se déguste aussi. C'est voilà, un légume complètement oublié, qui avait un succès plus important dans le temps, ce qui paraît, lorsqu'on gardait les vaches. Donc une des occupations, effectivement, était de fouiller le sous-sol pour retrouver donc ces noisettes de terre. C'est tout à fait excellent. Lorsque je fais des promenades botaniques, les gens sont très contents lorsqu'on déniche comme ça quelques noisettes de terre dans le sol.
Et du coup, vous faites souvent des promenades botaniques, des animations ?
Oh, ça arrive de faire à peu près une fois par mois à l'Opérec ou à Châteaulin. Ça permet aussi de découvrir les fleurs sauvages. Là, on est en dehors des légumes, mais c'est l'occasion de présenter quelques fleurs, parce que les gens marchent et ils ne savent pas forcément le nom des fleurs, ils ne savent pas forcément les particularités de chaque fleur. Et donc, autant marcher. On a de très beaux sites de marche à l'entrée du bourg de l'Opérec. Donc, autant montrer aux gens qu'est-ce qu'il est possible de qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et donc, chaque fois qu'on organise, ça fait une vingtaine, trentaine de personnes qui viennent marcher et qui découvrent comme ça donc les fleurs et qui découvrent par l'occasion la belle commune de l'Opérec.
Et du coup, alors, quand vous parlez des fleurs, des légumes, donc on peut se permettre de laisser pousser nos légumes jusqu'aux fleurs, il n'y a pas de souci?
Oh, il faut être aussi un peu poète quand on est jardinier. Hein, c'est pas simplement... Effectivement, le jardin, c'est avant tout une question... Moi, je fais du jardin, effectivement, pour nourrir la famille, pour nourrir les petits-enfants ou les enfants, lorsqu'ils reviennent de Paris, qu'ils apprécient donc les légumes de l'Opérec. Hein, donc, il y a ce côté donc alimentation, mais aussi, il ne faut pas non plus hésiter à laisser quelques poireaux monter. Hein, c'est superbe comme fleur. C'est superbe aussi de laisser les artichauts venir en fleurs. Ça fait d'ailleurs, je vois avec plaisir qu'il y a de plus en plus de plantations au niveau des ronds-points, notamment on trouve des poireaux en fleurs, on trouve des artichauts en fleurs. Je trouve que c'est tout à fait décoratif. Je crois que c'est important aussi d'avoir ce côté un peu différent, pas simplement la production, mais le côté esthétique. Moi, j'aime bien un jardin bien entretenu, bien nettoyé, avec des fleurs aussi de temps en temps, et puis sans compter qu'on va planter à côté des légumes aussi, d'autres fleurs, comme par exemple les tagettes, préférées des œillets d'Inde, qui auront un effet aussi donc intéressant pour éloigner des vers blancs, des mouches blanches, des légumes. Donc il faut combiner tout ça en même temps pour avoir un beau jardin.
Oui, parce que du coup, il y a des fleurs qui peuvent elles-mêmes repousser certains insectes, c'est ça?
Oui, alors il y a deux choses. D'abord, on met en place toutes les plantes couvre-sol donc qu'on sème donc au cours de l'été ou à l'automne, qui permet donc de protéger le sol aussi au cours de l'hiver. Bon, je plante pas mal aussi donc de moutarde ou de facély. Dans d'autres régions, ce sera beaucoup plus la luzerne ou le sainfoin pour les régions calcaires ou du mélilose. Ça permet aussi de protéger le sol. Comme ce sont aussi des légumineuses, ça permet de fixer donc l'azote, donc d'enrichir aussi le sol. Et puis parallèlement, effectivement, on peut planter d'autres fleurs hein, qui ont la propriété, donc, notamment par leur odeur, de chasser certains insectes. Hein, donc c'est aussi intéressant. Et puis moi, j'aime bien aussi donc, effectivement, les œillets d'Inde, la tagette, parce que elle a aussi un effet inhibiteur sur les liserons ou sur les chiens-dents. Vous savez, les liserons, c'est la peste quand même pour les jardiniers, donc il faut trouver un moyen aussi de limiter. Donc, puis il y a un instrument essentiel, hein, souvent je le dis, donc, quand je fais des animations, mon instrument essentiel, c'est le TAB, le travail à la binette, hein, donc c'est le meilleur traitement, mais ça suppose donc du travail, et puis mais c'est aussi une occupation très, très saine, hein, d'être au jardin, de se pencher sur ses légumes, il y a beaucoup de plaisir.
Donc alors dans votre jardin, vous avez testé un peu tous les légumes et toutes les fleurs dont vous parlez dans votre livre?
Oh, j'ai testé beaucoup de choses. Hein. J'aime bien aussi, par exemple, j'avais fait une haie de topinambour. Hein. Je trouve que c'était à la fois pour les légumes, mais ça faisait une haie tout à fait intéressante avec les fleurs jaunes. Bon, j'aime bien aussi planter des crônes du Japon, même si ça ne fleurit pas en France, ça donne quand même des tubercules intéressantes. Il y a des légumes qui existaient auparavant, comme par exemple le panais, qui était une culture assez importante donc en Bretagne, parce que le panais permettait de nourrir les vaches ou les chevaux au cours de l'hiver. Souvent, il y avait donc une parcelle de panais dans chacune des exploitations donc bretonnes. Donc, je trouve que le panais est également très bon, donc en ragoût notamment, c'est tout à fait excellent. Il faut aussi redécouvrir certains légumes qui avaient été donc oubliés.
Dans votre livre, vous donnez des conseils pour cultiver chaque légume, chaque fleur?
Plutôt que de conseils, non. Je m'intéresse plutôt au côté historique des fleurs, en racontant l'histoire donc des légumes. C'est vrai que j'étais dans le temps professeur d'histoire-géographie, donc j'étais plus attiré vers l'histoire. Donc j'essaye de montrer un peu aussi quelques anecdotes, quelques particularités des légumes dans l'histoire, hein, parce qu'il y a souvent une vieille histoire qui peut remonter donc à l'Égypte, qui peut remonter à la Grèce, ou alors à Charlemagne, ou plus tard. Donc c'est vrai que j'ai lu beaucoup certains auteurs comme Olivier de Serres, par exemple, ou La Quintinie, le jardinier donc, de Louis XIV, pour savoir comment ça se passait à l'époque. Donc j'essaye de dénicher aussi quelques anecdotes hein, sur les légumes, de quoi intéresser, je pense, le lecteur, parce qu'il est, le lecteur aime bien aussi savoir les particularités de chaque fleur ou de chaque légume.
Et du coup, vous les faites comment vos recherches, par exemple, sur le jardinier de Louis XIV?
Alors pour l'instant, donc, mon travail se divise en deux parties, entre printemps et été. Donc c'est la partie donc, photographie, recherche des légumes ou recherche des fleurs. Et puis lorsque l'automne, l'hiver vient, donc là je me plonge dans mes recherches. Je suis de temps en temps sur l'ordinateur, en particulier sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France. Ça permet de trouver une bonne source de documentation sur les fleurs ou sur les légumes. On n'est plus à l'époque où les recherches étaient simplement le fait des gens qui pouvaient se déplacer dans les grandes bibliothèques pour compulser tous les livres. Aujourd'hui, grâce à l'informatique, grâce au site Gallica de la Bibliothèque nationale de France, ça permet à tout un chacun de découvrir des tas de choses. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour ma recherche. C'est pour ça que avant, j'aurais pas pu lire Olivier de Serres, j'aurais pas pu lire la Quintinie ou bien d'autres auteurs. Je crois que ça permet de vulgariser la recherche.
Alors du coup, vous, c'est quoi votre fleur ou votre légume préféré?
Oh, c'est difficile hein, pour bon, disons que peut-être parmi les légumes préférés, je mettrais souvent en avant donc la betterave rouge. Moi, j'adore la betterave rouge, crue ou cuite, hein, mais c'est un. Et notamment parfois les vieilles variétés, comme notamment la crapaudine, parce qu'elle a une peau un peu de crapaud. Moi, je trouve qu'elle a une saveur tout à fait particulière. J'aime bien comme ça retrouver aussi des vieilles variétés. Hein, donc j'aime bien les betteraves rouges. J'aime bien travailler aussi les haricots verts. Hein, c'est tout à fait excellent aussi. J'aime bien aussi notamment les haricots blancs. Il y a une très grande richesse d'haricots blancs. Là, on a découvert il y a 2 ans une nouvelle variété d'haricots blancs qu'on appelle le petit riz de Plougastel. Je trouve que c'est une variété tout à fait intéressante. Et puis maintenant, on distribue le petit riz de Plougastel un peu partout auprès de nos amis jardiniers. Bon, il y aura plein de petits riz de Plougastel un peu partout dans la région de l'Opérec.
Oui, parce que du coup, ça existe des espèces de légumes spécifiques à un petit territoire, du coup, comme Plougastel.
Il y a beaucoup notamment pour les haricots blancs, on pourrait faire un tour de France du haricot blanc, parce que chaque contrée a son haricot particulier. Même chose pour les haricots verts. Bon, c'est vrai que moi je suis plus attaché plus aux haricots cueillis à la main, sans fil, avec aussi l'intérêt de suivre sa plantation, parce qu'il faut bien récolter au bon moment. Si on tarde un peu, il y aura des fils dans les haricots verts, donc il faut aussi observer aussi sa culture, quoi.
Là, du coup, dans votre potager, vous avez planté quoi? Enfin, il y a quoi qui pousse actuellement là, à cette saison?
Ah, pour l'instant, on n'est encore qu'au mois d'avril, donc il ne faut pas être trop pressé, surtout ici à l'Opérec, dans nos régions de montagne, il y a encore donc des gelées. Il n'y a pas de neige, mais enfin, il y a quand même de la gelée la semaine dernière, donc il faut aussi faire encore attention. Donc pour l'instant, en dehors des échalotes, des oignons blancs, des premières semences que j'ai mises en graines de betteraves rouges, de navets, mais pour l'instant, c'est encore froid, ça pousse encore difficilement, mais je pense que c'est surtout donc au mois de mai, là, qu'on va pouvoir semer beaucoup plus. Il faut jamais non plus être trop pressé, parce qu'il faut tenir compte du temps. Bon, le tout est d'abord de bien préparer son sol. Et puis comme maintenant j'apprécie de faire tout à la bêche, de bêcher tout mon jardin à la bêche. Donc c'est comme d'autres font 1 heure de crosse tous les jours, moi je fais 1 heure de bêchage tous les jours, et je trouve que c'est aussi intéressant physiquement.